Être entrepreneur, c'est être confronté au sentiment de solitude. Est-ce un frein, une liberté, une angoisse ou un challenge?
Tout seul.
Toute seule.
Tout seul, oui.
Toute seule.
Tout seul.
Toute seule.
Toute seule, oui.
Avec Tout seul, un des podcasts d'Orange pour les pros, nous rencontrons partout en France des entrepreneurs qui vous partagent leur expérience, leur histoire. Vous le saviez que seulement 6% des entreprises de la French Tech ont été créées par des femmes? Et oui, 6%. Femme et mère au parcours éloigné de la tech, Colline Cinquin a déjoué tous les pronostics en lançant Omedom. Si vous n'en avez pas entendu parler, Omedom, c'est la première application qui permet de gérer son patrimoine immobilier. L'entrepreneur, basé à Albi, vit ce projet et le porte avec la force des personnes qui ont un besoin intense d'accomplir leurs rêves. C'est dans sa nouvelle maison dans le Tarn qu'elle nous reçoit pour nous raconter son parcours 2 jours après son emménagement. Une vraie victoire pour celle qui a vécu 1 an et demi chez sa maman avec ses 2 filles le temps de lancer son entreprise.
Je suis une passionnée de musique, donc il y a tout le temps de la musique chez moi. Plutôt que du classique, là je vous ai mis un truc moins classique pour pas que ça plombe quand même l'ambiance. Donc voilà, moi j'ai emménagé ici ce week-end, enfin, parce que j'ai habité 1 an et demi chez ma maman avec mes 2 filles, hein, suite à ma séparation, et donc le temps qu'Omedom se mette en marche, que j'ai un salaire régulier, je pouvais pas louer, je pouvais pas acheter. Et là, ça y est, depuis quelques mois, ça a commencé à se stabiliser, donc j'ai pu enfin trouver ma maison avec mes filles. Donc ouais, c'est un grand pas, c'est pour ça que je suis un peu émue, parce que c'est le boulot de l'entrepreneur, c'est ça, c'est beaucoup de concessions. C'est des choix, c'est de la patience, c'est beaucoup de travail et c'est le travail à payer avec cet emménagement, donc ça veut dire beaucoup. J'ai enfin ma place, quoi. J'ai trouvé ma place et ouais, je commence à être en paix.
Trop chouette.
Donc moi, je suis albigeoise. Je suis née à Albi et puis j'ai toujours voulu être médecin. Et puis arrivée en première... j'étais complètement larguée en physique chimie et j'ai eu très peur. Je pense que j'avais la pression de l'échec, de par la pression familiale et du coup, soit par panique ou alors par lucidité, je sais pas, j'ai basculé en terminale éco. Donc pour moi, les rêves de médecine s'étaient envolés à ce moment-là. Donc j'ai commencé une année en droit à Albi et puis j'ai fait ça m'emmerdait comme c'est pas permis. Et donc, pendant le droit, j'ai commencé à être serveuse dans un domaine viticole. Et là, très rapidement, je me suis éclatée et j'ai gravi les échelons. Et dans un souci de rayonnement familial, où mes sœurs avaient fait des grandes études, j'avais la pression de faire la même chose. Et donc, j'ai commencé à chercher une école, une grande école dans l'hôtellerie-restauration. Et donc, j'ai passé le concours et j'ai été admise à Vatel. Donc Vatel, c'est une école privée de management en hôtellerie de luxe. Je me suis régalée et puis il y a eu un stage. Je suis allée à l'Alpe d'Huez faire un stage et j'ai rencontré mon mari qui est devenu ex. Donc il était chef de cuisine de là où je travaillais. Et je crois que son rêve est devenu le mien, c'était d'avoir un restaurant. Il se trouve qu'il y a eu un héritage qui est tombé à ce moment-là et on a eu l'occasion et l'opportunité de créer un restaurant. On a cherché et on a trouvé un magnifique endroit qui était à Saint-Martin, dans les Caraïbes. Et on a monté et tenu ce restaurant pendant 5 ans et demi, 6 ans. Et ma petite fille Marie-Lou, qui a maintenant 15 ans, a vécu de 0 à 5 ans et demi sur l'île de Saint-Martin. On a vendu le restaurant suite à notre séparation. Je suis retournée à Paris pour faire de l'hôtellerie à des postes de direction. Et puis, je suis revenue en Albigeois parce que ma mère est tombée malade. J'avais mon divorce qui était compliqué. Et donc, j'ai monté ma société en tant qu'auto-entreprise où je faisais des business plans pour de l'hôtellerie de luxe. Donc, j'avais des investisseurs qui avaient des projets de création d'hôtels de luxe dans le monde. Et donc, mon livrable était de fournir un business plan et un rétro-planning pour l'ouverture de cet hôtel-là, enfin de ces hôtels. Donc, j'ai pu on m'a mise à contribution sur un hôtel à Bali, à Marrakech, à Barcelone et un dans le Tarn. Il y avait eu un projet dans le Tarn, donc qui a ouvert.
Au Medom, du coup, c'est ta troisième expérience d'entrepreneuriat. Tu as une expérience en couple et une expérience toute seule déjà. Et là, tu t'es relancée dans une troisième expérience toute seule.
Oui, au Medom, effectivement, c'est la suite logique d'une histoire qu'on a vécue. C'est-à-dire que mes grands-parents, ma grand-mère décède. Et donc, ma mère, qui est fille unique, se retrouve à gérer un patrimoine immobilier dont elle hérite de droit. Et c'est un chalet qui a été construit par mon grand-père. C'est un terrain au fin fond du Tarn qui a lui-même sa propre histoire. C'est des endroits où on a vécu en tant que petite fille avec mes sœurs, qui nous ont construites quelque part, où on a plaisir à revenir. Et donc, en fait, en bout de ligne, c'est comment fait-on, quand on est seul, pour piloter un patrimoine immobilier dans un souci de transmission à nous, ces filles, au moment voulu. Mais en attendant, quid de comment ça se passe ? Elle n'a pas envie de vendre, elle n'a pas envie de déléguer à quelqu'un, elle a envie de garder le contrôle sur ses biens, en plus de sa résidence principale. Et avec mes sœurs, on a fait le tableur Excel, on lui reconstituait le drive par bien, et puis on se relayait, on sentait la pression qui montait, aller à la pêche aux informations chez le notaire, chez l'assureur, chez le syndic, chez l'agent immobilier, pour essayer de reconstituer en fait le pulse de tout ça. Tout s'est passé pendant le confinement. C'est-à-dire que la journée, je travaillais mes business plans pour l'hôtellerie. Charlotte avait 2 ans, d'une deuxième union. Donc je jonglais entre Charlotte la nuit et cette idée. Donc je faisais des business plans pour des hôtels. Je me suis dit, OK, je vais prendre la même trame qu'un business plan hôtelier et je vais faire ce business plan pour cette idée. Une idée d'une appli qui aide au pilotage de plusieurs biens de différentes natures. Et cette idée m'obsède et je déroule mon business plan à moitié sur la nuit pendant le confinement. Et c'est à la fin du confinement où j'ai fini mon business plan sur au Medom, qui ne s'appelait pas au Medom à ce moment-là. Et je regarde dans mon carnet d'adresses, dans mon répertoire, je me vois encore chercher des personnes qui sont en lien avec l'immobilier. Parce que je me dis, OK, j'ai une idée, je me suis bien éclatée à faire mon business plan et à me torturer le cerveau. Mais je vais quand même voir si ça a un impact ou si je suis complètement à côté ou has-been ou ça s'est déjà fait. Et je trouve une personne qui m'en fait rencontrer 2 autres qui sont des courtiers en gestion de patrimoine. Je n'y connais rien en technologie. Il me fait m'asseoir et je commence à pitcher, à présenter mon projet. Et là, ils ont trouvé ça plutôt bien. Et ces personnes-là sont devenues membres fondateurs avec moi. Au même moment, je dirais un mois plus tard, j'ai rencontré une amie de ma sœur à une réunion de fringues. Tu vois, une réunion à domicile de fringues où ma sœur m'avait dit « viens changer les idées ».
Le vide dressing.
Ouais, le vide dressing, voilà. Et elle a invité ses copines, bien sûr. Et je m'assois à côté d'une fille et on commence à discuter. Et je lui explique mon projet. Et elle me dit « écoute, moi ça m'intéresse, on reste en contact ». Et cette fille-là est... c'est Héloïse que tu vas voir tout à l'heure. Et encore une fois, je suis très émue parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai ouvert la porte de ces courtiers en gestion de patrimoine, c'est encore une fois, il y a tout qui arrive au bon moment avec les bonnes personnes. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie avant à pas bien m'entourer, à être plutôt naïve et influençable et manipulable. Là, depuis que j'ai au Medom, je sais qui je suis, je sais où je suis bonne, je sais où je suis pas bonne, je sais qu'il faut que je m'entoure de gens brillantissimes qui ne me ressemblent pas. Je sais que je n'y connais rien en tech, que je connais rien en immobilier, donc il me fallait des gens qui soient experts à ma place pour pouvoir faire ensemble un projet commun. Et Héloïse, qui était chez Airbus en tant que salariée, me rejoint officiellement en tant que salariée, responsable du pôle techno, dev et cybersécurité chez au Medom. Elle m'a fait confiance dès le début et je dirais pas que c'est une amitié parce qu'on se connaissait pas il y a encore 3 ans, mais c'est des personnes incroyables comme Lou ou Chloé qui me suit dans tous mes projets et mes idées farfelues, qui me font confiance et c'est tapis rouge.
Tu vois
l'installation?
Ouais, ça marche.
Ah, c'était un cours, hein?
Ouais, ça roule, bisous.
Alors, mais moi, je suis donc Lou. Je suis responsable communication et médias au sein d'Omedom depuis le 30 mai dernier. J'accorde l'importance à ce que je fais, pour qui je le fais, avec qui je le fais. Colline 5.1, comme je lui dis, c'est... T'aurais fait une appli pour vendre des pantoufles ou pour vendre des meubles. En fait, moi, c'est toi qui m'as accroché grave. En fait, c'est, elle a une manière de fédérer, d'accompagner avec elle, de booster. Enfin, vraiment, c'est, j'avais trop envie de bosser avec elle, en fait. Reconversion professionnelle aussi. Moi, je suis super intéressée, fascinée par tous ces parcours qui, là, se multiplient en plus beaucoup aujourd'hui. De, ben voilà, hôtellerie de luxe à j'ai une idée. En fait, le storytelling, il n'a pas été à créer parce que c'est une histoire vraie, en fait. Moi, il y a ça aussi.
On crée la société en mars 2021, en bonne et due forme. Et là, ça s'accélère. Ça s'accélère parce que c'est ma sœur aînée, je crois, qu'il me dit, écoute, t'es pas de la tech, t'es pas de l'immobilier, il faut que tu rejoignes un incubateur. Donc déjà, premier mot, en fait, c'est tout un verbatim qui arrive. Et donc, je recherche des incubateurs dans la tech. J'envoie plusieurs dossiers et c'est l'IoT Valley, où on va aller cet après-midi à la Bège, qui me recontacte. On a retravaillé le projet, affiné le marketing, l'étude de marché, des gens vraiment chouettes. Et qui m'ont appris tout le verbatim, sans le chercher, hein, mais dans les formations, les ateliers, tout le verbatim des startups, de la tech, pas forcément d'immobilier, mais de la tech, d'une organisation startup, élevée de fonds, financement, innovation, tous ces termes-là rentrés, comme j'emmagasine rapidement, et j'adore ça. Et j'adore ça. Je creuse chaque mot. J'essaye d'être le plus à l'aise possible parce que j'allais pas lever la main à chaque fois en disant je comprends pas. Donc, en même temps, j'apprenais. C'est fin 2020. J'ai pas de projet. J'ai pas d'appli. C'est le salon Rent et le groupe Se Loger qui organisaient un concours national de la PropTech au féminin. Voilà, la PropTech, c'est la Property Technology. Ça aussi, je le savais pas. Avant d'avoir ce prix, je savais pas ce que c'était la PropTech. Qui récompensait un projet national innovant porté par une femme dans le milieu immobilier. Et donc j'envoie un peu ce dossier par hasard. Je fais vraiment un dossier, j'écris comme je parle, donc avec des points de suspension, des points d'exclamation. Et il se trouve que j'ai gagné ce concours, donc je me retrouve à Rent, le salon de l'immobilier, il faut être, donc ça c'était octobre 2020, où je reçois le premier, disons, la première reconnaissance d'un projet innovant.
Avant même le statut d'entreprise.
Oui. Ouais. Et enfin, c'est pas enfin parce que je ne l'attendais pas, mais le mot innovation était posé pour Omedom. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes au niveau des financements, des subventions. L'IoT dans la foulée m'a mise en relation avec la BPI, qui est un service de l'État, qui finance l'innovation en région. Donc, avec la BPI Toulouse, j'ai eu un super contact, qui a eu les premières subventions, la bourse French Tech. Ensuite, j'ai ouvert le capital pour faire entrer des business angels. Et dans les business angels, la seule personne, en fait, qui fait partie de l'aventure, qui est le plus proche de moi, c'est cette fille, Laure Soulier. Laure Soulier, elle est docteure en intelligence artificielle à Paris-Sorbonne maintenant. On a fait nos classes, on était au lycée à Albi et on se suit depuis 25 ans. Elle est rentrée et je lui ai demandé de m'aider à monter un dossier d'innovation technologique. Et c'est ce qu'on a fait pendant 4 mois. Elle a travaillé avec Héloïse pour pouvoir après pitcher le projet devant un comité qui validait l'innovation. Et donc c'est ce qu'on a fait. On s'est plongé dans l'intelligence artificielle, apprendre le machine learning. Et encore une fois, tout ce verbatim sur l'intelligence artificielle, puisqu'on y va, la roadmap déroule et on va y aller, pour pouvoir faire levier, avoir plus de financement et enfin recruter. En 2022, c'est 650 000 euros qui m'ont permis de recruter les premiers staffs, internaliser Héloïse et d'être à 6 pour pouvoir avoir in-house le code source de l'appli. Donc Omedom, c'est une application C'est même une web app, c'est-à-dire qu'on la trouve sur les stores Android et Apple, mais aussi en version ordinateur. Un propriétaire va s'inscrire, il va créer son compte, tout simplement, et là, il va ajouter ses biens. Ça peut être de la résidence principale, de la résidence secondaire, ça peut être des investissements locatifs, ça peut être des sociétés, différents types de sociétés. Donc, le but, c'est de rassembler différents types d'actifs immobiliers, de centraliser les documents, c'est-à-dire qu'on va pouvoir importer ou photographier les documents et les ranger par bien. En fait, c'est numériser les armoires des grands-parents ou des parents qui sont un peu essaimés dans différents endroits. Connecter un compte bancaire à un bien et l'appli va faire remonter uniquement les mouvements incombant à ce bien. Quatrième chose, c'est le partage de biens entre tiers. On va pouvoir partager un bien, une société, à ses parents, à ses enfants qui vont louer un appartement, tout ça pour suivre à distance, mais aussi à ses membres, à ses associés quand on a une SCI. L'objectif, c'est que Omedom, in fine, c'est deux tableaux de bord. Un pour tout ce qui est résidence privée, l'autre pour le parc locatif. L'appli va simplement informer un utilisateur, un propriétaire, qu'est-ce que j'ai payé hier sur quel bien et quoi, qu'est-ce que je vais devoir payer demain sur quel bien et quoi. Ça, on va pouvoir le faire sur l'ensemble du patrimoine ou par bien, quel est mon dernier et mon prochain mouvement. Et ensuite, il y a une vue sur un prévisionnel de trésorerie, c'est-à-dire que avec toutes les informations collectées, l'appli va délivrer un prévisionnel de trésorerie à 12 mois pour anticiper des mouvements bancaires afin d'anticiper les taxes foncières, les taxes d'habitation de fin d'année.
J'ai toujours grandi dans des maisons avec des escaliers, donc voilà, je savais que si j'avais un jour une maison, j'aurais plein d'escaliers. Une salle de bain avec double vase, ça c'est le grand luxe. Ça c'est ma chambre. J'ai mis mon bureau là, dans la maison de ma mère. Je lui louais une partie de la maison pour mes bureaux, j'avais tout. Et donc, Chloé et Lou, qui sont en bas, qui travaillent à Omedom, me disent « C'est hors de question que tu mettes ton bureau dans la chambre, sinon tu vas jamais décrocher. » Je décrochais pas avant. Je me dis... avec les filles, je suis obligée d'avoir un rythme. Je le sais que je peux déborder. Je peux y passer un temps fou quand on est passionné, comme tous les gens passionnés passent un temps fou, mais depuis deux ans et demi, j'essaye de couper à 19 maxi et de pas reprendre en 9h le matin. De toute façon, j'ai les filles le soir, les filles le matin. Donc bon, moi, je sais qu'hier j'ai coupé et je m'y suis pas remise, donc je me dis il faut que je continue comme ça, sinon le bureau trouvera un autre endroit, mais je sais pas trop où.
Nous, le fait qu'on soit en 100% télétravail, il y a plein de gens. Il y a plein de gens, ils disent mais comment vous faites ? Moi, je peux pas, etc. Je pense que le télétravail, c'est vraiment une question de tempérament, de personnalité aussi. Parce que moi, j'ai des copines et des potes ou quoi qui me disent mais moi, 100% télétravail, je pourrais pas. Il y a Netflix qui sonne par là. Il y a ma console qui clignote dans l'autre coin de la pièce, etc. En fait, c'est une discipline qu'on s'applique, quoi. Moi, je sais que je respecte mes horaires, je bosse jamais en pyjama. Enfin, voilà, c'est une discipline. Mais après, c'est clair que je pense pas que ce fonctionnement-là puisse correspondre à tout le monde. Mais nous, étant donné que ça fait partie des critères, en fait, de l'entreprise et des critères de recrutement, oui, si t'es quelqu'un qui a besoin de ton café à 10h avec tes collègues ou quoi, etc., nous, on peut le faire, mais en visio. Donc, ça empêche pas le lien, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que... développeurs à Paris, à Marseille, certaines à Albi, d'autres à Toulouse ou autres un peu partout, ça n'empêche pas en fait ce lien de confiance, de soutien et vraiment d'esprit d'équipe en fait et de cohésion. Donc je pense que ouais, c'est une organisation à voir et c'est un changement aujourd'hui dans le milieu du travail où je pense que certains ça les fait se pousser dans les retranchements, mais qu'est-ce que tu préfères, être sur place et recruté par pur critère géographique ou par critère de compétences, de profil?
Il y a des chartes de télétravail, les chartes du manager, des plannings bien précis avec des réunions toujours au même moment dans la semaine pour l'équipe dev, pour l'équipe com et un moment tous ensemble. Donc c'est très rythmé, c'est très très rythmé. On pourrait croire qu'être en full remote... ça peut être tendancieux et glissant, mais pas du tout. Pas du tout. Il suffit que ça soit clair dès le départ. Et si ça déborde, hop, on recadre. Non, non, c'est 9h le matin. Tu te connectes à 9h. Tu te connectes pas avant. Et tu te déconnectes à 18h. Et tu te reconnectes pas après. Il faut pas... Voilà, encore une fois, on vit une aventure vraiment extraordinaire qui demande beaucoup d'investissement. Et je leur dis encore, coupez à 18h. Je ne veux pas vous voir connecter, vous envoyer plus de messages après 10h. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des événements qui arrivent et du coup on partage les infos. Mais c'est important pour tenir la distance d'arrivée. Et moi, il faut que je me l'applique aussi. Hein. 9h, 18h, terminé quoi. Mais ça, je ne peux pas contrôler. Donc c'est la bonne discipline de chacun.
Donc moi je suis Héloïse Medina, j'ai 41 ans, je suis toulousaine. Alors pour les investisseurs en effet, on a déjà eu des remarques là-dessus. Trois femmes, ça ébranle un peu, ça déstabilise. Je pense qu'ils ont un a priori pas forcément à notre avantage quand ils nous voient arriver. Peut-être que l'a priori change après qu'on ait pitché et en général il change. Même le reconnaissent pour certains avec qui on a pu discuter par la suite. Donc en effet, il reste des a priori. On peut imaginer que des femmes à la tête d'une entreprise et avec ce projet, c'est peut-être pas très rassurant au départ. Je ne me focalise absolument pas là-dessus. Je connais notre valeur, je connais notre rigueur, et ils voient qu'en face, voilà, il y a du répondant et qu'on ne met pas les pieds n'importe où. Bien au contraire, d'ailleurs, on a les pieds sur terre, on a la tête sur les épaules et on avance de manière assez sereine, en tout cas. En ce qui me concerne, je suis très sereine.
Bon, on en a reparlé hier après-midi avec Héloïse, je la remerciais. En fait, je l'ai remerciée une nouvelle fois d'être à mes côtés et de me faire confiance et que nos places sont très très claires. Moi, je me considère plus comme chef d'entreprise. C'est elle, le manager hors pair. Elle a l'expérience d'un poste de salarié chez Airbus, grosse boîte, avec des process. Elle est parfaite dans ce lien entre tout le monde. C'est elle, la guimauve qui tient l'ensemble. Moi, je suis un peu là en tête de file. Ça me suit, faites-moi confiance et j'ai des idées. Elle n'aime pas se mettre en avant. C'est pas son job et elle n'aime pas ça. Elle est derrière moi à dire... attention, mais je dis souvent, mais elle c'est le mais. Moi je suis et on fait ça et ça et ça, et elle dit mais attention. Et en bout de ligne, il y a Chloé qui clôture avec la finance, oui, ça non. Et donc c'est un trio qui fonctionne. Donc, et je les écoute en retour parce que j'ai tout à apprendre justement. Et moi j'ai besoin, je suis remplie de ça, j'ai besoin d'apprendre des trucs. Et à chaque étape, on parle de levée de fonds, mais il y a encore un an, je ne savais pas ce qu'était une levée de fonds, quel est le parcours, les roadshows, l'étape de capitalisation, les fonds d'investissement. C'est depuis 6 mois, ça s'intensifie. Maintenant, on excelle dans la manière de pitcher, de présenter les bons éléments. Et Chloé amène sa pierre à l'édifice, Lou aussi, enfin, chacun sa part. Chaque jour est très différent chez Omedom. Chaque jour, c'est un challenge monstrueux. C'est des superbes victoires, comme des moments d'hyper inquiétude. Ça va très vite. Hein. Et donc, avec cette équipe-là, on a réussi à sortir une version 1, puis une version 2. La version 3, moi, c'est la 3, qui est sur les stores depuis janvier-février de cette année. Cette version 3 fait que les téléchargements ont bondi.
Alors, je suis Chloé, je suis DAF, alors à la base externalisée, donc directrice administrative et financière, pour l'instant en sous-traitance donc pour Omedom. Certainement pas pour longtemps, puisque Colline voudrait que je rejoigne l'équipe. J'ai fait une grosse partie de ma carrière dans la santé, dans les établissements de santé, où j'étais... responsable administrative et financière, directrice administrative et financière, puis directrice d'établissement de santé. J'ai fait pas mal de métiers. Et puis l'année dernière, je me suis dit, le salariat, c'est plus pour moi. Je m'installe en freelance. Et j'ai rencontré Colline et finalement, quand on rencontre Colline, les choses peuvent changer. Donc voilà, on est en train de discuter. Je me suis pris de passion pour cette aventure au Médom et on est en train de discuter de la possibilité que j'intègre l'équipe à temps plein. Le côté entrepreneurial est chouette. C'est vrai qu'on est relativement seul ici, à une équipe et une équipe sympa, un peu atypique, et très punchy. Donc ça fait du bien aussi.
Quelque chose qui est important pour moi, c'est que je suis dans plein de réseaux. En tant que femme, chef d'entreprise, maman, il faut se faire violence. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde. Mais il faut se faire violence de rentrer dans des réseaux féminins ou pas, mixtes aussi, de votre secteur d'activité. S'obliger à rentrer dans des réseaux, c'est très important. La personne qui va débloquer la situation un jour, on ne la connaît pas encore, mais elle n'est peut-être pas loin non plus. Donc moi, je sais que ça m'a aidé vachement. Mais dans cette aventure-là d'entreprise, je suis toute seule à prendre mes responsabilités, à faire des choix au final, à me planter. Si je me plante, ce sera ma faute. À cramer trop d'argent ou justement investir dans pas les bonnes choses, de m'entourer de mauvaises personnes. Je suis toute seule à prendre ces décisions-là et il faut les prendre très rapidement. Donc je suis oui, elle avait raison là-dessus. L'avantage de la solitude, c'est la liberté. C'est la liberté. Je dirais pas l'indépendance. Je suis loin d'être indépendante financièrement. On est loin, mais je Chloé m'aide. On a un objectif. J'ai pas besoin de mes dessins. Hein. J'ai besoin de mes filles et de ma maison. L'indépendance, c'est financier. Je l'ai pas encore. Bientôt, j'espère. C'est plutôt la liberté. La liberté d'aller à droite, à gauche. La liberté de faire rentrer des personnes ou pas dans ma boîte. De pas faire rentrer le verre dans la pomme. La liberté de pouvoir créer la suite. D'imaginer la suite. C'est la liberté, ouais. Et même si au Médom s'arrête demain, j'ai déjà 3-4 projets qui tournent dans ma tête. Je rebondirai. J'ai des personnes incroyables autour de moi, des experts que je solliciterai si j'ai un autre projet. Est-ce que l'équipe, je sais qu'il y a une partie de l'équipe qui me suivrait dans d'autres choses. Donc, je ne crains pas grand chose.
Bah, merci beaucoup.
De rien. Avec plaisir.
Bonne continuation à Colline 5.1. Merci d'avoir écouté Tout Seul, un podcast d'Orange pour les pros.